l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, on reçoit des personnes qui s'impliquent, en l'occurrence, pour la transition climatique. Nous sommes nombreuses et nombreux à penser que rien de grand ne se fera sans commencer par du petit. Que quand ça vient du terrain, ça germe, ça pousse mieux que quand ça vient de haut, voire de très haut. En matière de climat, on mesure déjà le changement et il arrivera peut-être encore plus tôt qu'on ne le pense, ce changement. Alors pour que ça devienne concret, il faut qu'on y pense au quotidien, non pas en s'angoissant, ni en pleurnichant, mais en agissant. Pourquoi pas avec cette citoyenneté du climat représentée aujourd'hui par nos invités. Nous avons déjà croisé l'une d'entre elles sur notre antenne. Elle sait construire des maisons en paille. Elle a répondu aux enfants dans nos ateliers Transistor sur l'habitat. Et elle est aussi venue en plateau lors de l'émission réalisée au collège Sainte-Jeanne d'Arc de Crozon. Elle s'appelle Céline Marzin. Et puis il y a deux autres de ses comparses citoyens du climat qui l'accompagnent, Ulrich Barrault et Hervé Gumez. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Quel bel ensemble, j'adore. Alors, ce statut de citoyenne et citoyen du climat, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Qui l'a inventé? Qui répond? Céline? Non? Allez, Céline.
Oui, si vous voulez. Donc, c'est venu d'une loi de transition, de la loi de transition de 2016, où l'État pensait qu'effectivement, c'était les citoyens qui pouvaient un petit peu influencer d'autres citoyens sur les effets du changement climatique et comment il serait possible de s'adapter.
Bien.
Et donc, à l'époque, c'était financé par l'ADEME pendant 2 ans.
L'Agence de la maîtrise de l'énergie, enfin, ça s'appelle maintenant l'Agence de la biodiversité et de l'environnement, je crois.
Mm-hmm. Et la région, et aujourd'hui, c'est financé par les collectivités territoriales, en l'occurrence pour nous, la communauté de communes de la presqu'île de Aulne-Maritime.
Alors vous êtes trois, donc vous allez vous nous raconter pourquoi vous êtes citoyen du climat, où est-ce que vous habitez? Alors Ulrich
Moi j'habite à Crozon, dans les banlieues de Crozon.
Oui, la banlieue de Crozon.
je peux voir l'église de chez moi. Et c'était une question de la mairie. Ils cherchent des bénévoles pour participer à cette groupement de citoyens du climat, parce qu'ils sont obligés de faire une certaine implication des citoyens. C'est pour ça qu'ils ont cherché des gens.
Ça fait longtemps d'ailleurs que ça a commencé en presqu'île de Crozon et de Maritime, cette recherche.
Bon, moi, je n'étais pas le premier.
Je pense que ça fait 3-4 ans. Ouais. Mm-hmm. On a commencé avant le Covid, un an avant. Et ensuite, pendant le Covid, on s'est vu quelques fois en visio. Et on est vraiment redevenu très, très actif une fois qu'on a été libéré.
Et c'est obligatoire pour les communautés de communes, peut-être pas pour les communes. Enfin, c'est ça, quelle est l'échelle à laquelle c'était obligatoire?
Parce que le financement se fait au niveau des communautés de communes.
Mm-hmm. C'est obligatoire à partir d'un 20 000 habitants.
Ah oui, c'est ça. Et vous, Ulrich, vous étiez intéressé, j'imagine, par les questions du climat, si vous aviez choisi de venir.
Oui, mais il faut avouer que, comme tout le monde de notre génération, j'ai une certaine dette de CO2 dans ma vie professionnelle et privée. Mais bon, on peut apprendre.
C'est ça.
Et déjà, à ma maison, j'essaie de me approvisionner en énergie assez renouvelable. J'ai une centaine de panneaux solaires, une éolienne. Je m'achetais une voiture électrique et tout ça. Mais je voulais faire un peu plus au-delà de mes frontières personnelles.
Ça, ouais. Céline, pourquoi avoir choisi d'être citoyenne du climat?
Parce que effectivement, les informations que l'on peut avoir sur le changement climatique et nos activités au quotidien devenaient de plus en plus prégnantes. Et je pensais que le projet que j'avais construit sur la presqu'île, la plupart des gens qui sont venus, même la totalité des gens qui sont venus, n'étaient pas des gens localement. C'est des gens qui sont venus de la France.
Pour les maisons en paille,
c'est ça ? Oui, pour la construction de la maison en paille en chantier participatif. Et je me suis dit que, effectivement, il allait. Et les informations devenant vraiment, vraiment importantes, comme la publication du rapport du GIEC il y a 2-3 jours, qui confirme les tendances annoncées depuis 20 ans, 30 ans.
Chaque rapport, il nous confirme, d'ailleurs. Voilà. C'est même de pire en pire.
Surtout que cette fois-ci, le rapport est plutôt bien fait, avec des graphiques vraiment, vraiment parlants. c'est impossible de rester sans agir et essayer que tous ensemble, collectivement, on puisse changer un petit peu nos habitudes. Tout est poussé pour que nous consommions, en fait. Ce mot de consommer, il est une aberration. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment tout à chacun de réfléchir à ce que l'on fait. Juste un exemple, le fait de travailler, fait qu'on a deux impacts majeurs qui sont des émissions de CO2, donc de ce gaz qui fait le réchauffement de notre environnement de vie, et on prélève sur des ressources. Et rien que ça, et le fait de travailler, par exemple, plus longtemps, 2 années de plus, comme ce que notre gouvernement souhaite actuellement, bah oui.
Hein, oui, mais tout à fait.
Normalement, j'aurais dû être à Brest aujourd'hui avec des amis, et je suis là avec vous. Et effectivement, l'idée, c'est de dire, travailler 2 années de plus, non seulement le corps, pour la plupart des métiers, ne peut pas le supporter. Et en plus, c'est toujours plus de prédation sur des ressources qui s'amoindrissent et plus d'émissions de CO2. Si à la limite, il avait été proposé en même temps la semaine de 4 jours, ça
oui,
pouvait
ça,
totalement
voilà,
se regarder.
Oui, il y avait plein de solutions, bien sûr.
Mais
après,
solutions.
Ça dépend évidemment des métiers. C'est sûr que quand on est dans les métiers de la santé, par exemple, du soin, bon, voilà, il y a des dépenses carbone qui se justifient plus ou moins. Ou quand on est dans la préservation des milieux naturels, bon, évidemment. Hein. Enfin, bon, on pourrait... D'accord. Et donc, Hervé Gumès, vous êtes aussi à Crozon, vous habitez
moi,
aussi
Crozon. Moi, je suis sur Telgruc.
Telgruc, d'accord.
Et puis, depuis quelques années, tout comme Ulrich... J'ai un passif à atténuer et j'ai migré vers la sobriété, c'est-à-dire que je me suis dépouillé de pas mal de choses. Je peux vivre dans très peu, avec très peu, et puis je peux déménager partout où je veux avec une voiture, quoi, finalement.
Ah ouais. Donc, je
tends vers la sobriété la plus importante, finalement nécessaire, quoi. Simplement en disant quels sont mes besoins.
Êtes-vous plus malheureux ?
Et non, justement, on s'aperçoit qu'on se retire de la charge mentale, finalement, en ayant peu de choses. C'est ce que je dis toujours. Moi, je peux vivre très bien avec un ordinateur, un disque dur où j'ai toute ma vie dedans. Et puis, très peu de vêtements. C'est pas la peine d'avoir dans sa garde-robe 10 jeans, alors qu'on en utilise qu'un au jour le jour.
Des bons vêtements costauds, quoi.
Vêtements costauds. Ça aussi, c'est une discussion que l'on pourrait avoir. Tout le monde peut pas acheter local et français selon ses moyens, mais néanmoins faire mieux avec des matériaux qui sont plus locaux, plus responsables et en moins grand nombre, c'est
oui.
ce qu'il faut tendre.
Toute question de quantité, c'est ce que j'allais
Exactement.
Dire. Et là, les citoyennes et citoyens du climat de la presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime, ont l'air d'être plutôt de la presqu'île et moins de l'Aulne-Maritime, ou c'est juste qu'ils sont pas venus, enfin.
Alors, il y a un groupe maintenant qui s'est créé au niveau de Châteaulin.
Et alors, c'est notre com-com. Mais sur notre com-com, les gens qui sont plus à l'est, on va dire...
On a une personne qui vient maintenant,
Fou,
qui est à Landévennec.
Landévennec, oui, ça reste encore la presqu'île.
Et Joël, il vient de Fou, non?
Bon, Joël, il est à Rosnoen.
Ah ouais, bon, d'accord. Donc on peut lancer un petit appel sur. Parce qu'en fait, c'est jamais trop tard. On peut devenir citoyen ou citoyenne du climat en cours de route, c'est ça?
Ah oui, chaque jour. Hein.
Oui.
Et en plus, on a eu souvent, et on va avoir dans le futur aussi, même des réunions au Fou. Parce
ah,
que
voilà,
dans
c'est
la,
ça.
Dans la ZRL qui est là, il y a une dépendance de la Comcom.
Ouais,
et là,
on a des
salles pour se rejoindre.
Alors, les citoyens du climat font des réunions, c'est ça? Alors, qu'est-ce que vous faites? Ouais, ça consiste en quoi, votre
Alors, on est intimement persuadé que la réflexion collective apporte plus que la réflexion individuelle.
D'accord.
Alors, la réflexion individuelle, c'est très bien. On s'aperçoit que, tout au moins pour le climat, tout un chacun peut faire des choses. Hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit que consommer moins, se déplacer moins, ça va dans le bon sens. Mais ça, c'est individuel. Puis on s'aperçoit que, et c'est comme vous disiez tout à l'heure, d'un point de vue gros collectif ou étatique, on s'aperçoit que ça n'avance pas. Donc il faut partir de petit, individuel, et puis après monter à du collectif pour aller chercher le territoire. Et du coup, lors de nos réunions, on essaie de voir quelles sont les actions qui peuvent être hyper simples, mais qui peuvent être mises en place rapidement.
Et qui ne coûtent pas forcément énormément d'argent.
Qui ne coûtent pas forcément d'argent. Alors, on peut prendre des actions telles qu'on les a imaginées, essayer de voir si on ne peut pas faire, par exemple, une commande collective de panneaux solaires.
C'est moins cher.
On s'aperçoit qu'il y a des effets de seuil. Pourquoi ne pas le faire sur la Comcom, par exemple, de Douarnenez, ils l'ont engagé. On pourrait le faire sur la Comcom de la Presqu'île et de l'Aude-Maritime sans aucun problème.
D'accord. Céline, il y a combien de réunions régulièrement? Enfin, c'est régulier, c'est quoi la fréquence?
On essaye de se réunir à peu près une fois par mois.
En même?
Oui.
Ce qui n'est pas rien.
On essaye. Après, il n'y a aucune obligation de venir à toutes les réunions, mais voilà, après...
Tout le monde n'est pas toujours là, quoi, c'est ça?
Exactement. En fait. Et il y a un site internet qui a été mis, qui a été créé par l'une de nous, Laurence, et on va être un petit peu plus visible avec ça, parce que jusque-là, on échangeait par mail entre nous. Alors des fois, ça fait un petit peu beaucoup, parce qu'on balance nos références, ce qu'on trouve. Et donc, il y aura un site internet qu'on va rendre public bientôt et qu'on va
faire vivre.
Ouais. Vivre. Bah, on le rajoutera dans l'article quand il sera prêt.
Et après, les réunions sont aussi en fonction. On a participé l'année dernière au Forum Impact Bretagne 2050 avec les élus de la Comcom qui nous avaient conviés à participer. On a été 5 à participer. Et ce que l'on souhaite faire aussi, c'est... moi, par exemple, j'essaye d'assister à tous les conseils municipaux de ma commune, aux conseils communautaires, pour voir effectivement quelles décisions sont prises. Et d'essayer de pousser un petit peu, parce qu'effectivement, on peut, nous, entre citoyens, et on est une petite trentaine dans la liste, mais une dizaine à être actifs, à notre niveau, on essaye de prendre de l'ampleur. Mais s'il n'y a pas une volonté publique de faire changer les choses, ce sera toujours à la marge.
Est-ce que vous sentez quand même que les élus ont évolué depuis que vous êtes là, Ulrich?
Pas forcément. On va, par exemple, lundi, Céline va poser la question intrigante. Qui des élus a déjà lu le petit court résumé
le
rapport de GIEC, qui n'est que 36 pages? Alors, ça se lit dans une demi-heure, hein, si on est rapide. Et j'en suis pratiquement sûr que déjà, c'est impossible que tout le monde a lu. Et je serais déjà heureux si un dit « oui, j'ai bien lu ».
S'ils ont écouté la radio, ils vont peut-être se rattraper ce week-end, là, hop, pour lire,
peut-être.
Pour être prêt pour lundi.
Peut-être, ouais.
Non, je pense qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une bonne connaissance, mais trop peu. C'est-à-dire que les gens se voilent la face. C'est terriblement facile de se dire, OK, le constat, il y est. Et constat après constat, on fait toujours le même constat, finalement.
Ouais.
Là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand les politiques se disent « Ok, d'accord, il y a ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire localement ?» Et nous, on est là potentiellement pour essayer d'aiguillonner un peu, pour voir où est-ce que les actions locales peuvent être menées et comment elles peuvent être menées.
Céline ?
On sait qu'on a quand même eu une petite influence. Cette année est prévue pour tous les élus et tous les agents de la Comcom une fresque du climat.
Ah oui, il faut expliquer ce que c'est qu'une fresque du climat.
Alors, une fresque du climat, c'est un jeu qui a été créé il y a 6-7 ans. Et en fait, en 2-3 heures, ça consiste via une carte et à placer des cartes avec les causes et les effets, en fait, de nos activités humaines, qu'elles soient à l'échelle d'une personne ou à l'échelle plus industrielle. Et ça permet vraiment de se rendre compte de l'impact. Alors, on sort de là, pas toujours forcément...
Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est pas réputé pour être très réjouissant. Comme
non,
jeu,
c'est pas très réjouissant.
On est pas trop là pour s'amuser.
Mais après, ça peut être un déclencheur et de se dire, on va se mettre en action. Après... Je pense pas que les effets du changement, enfin les causes du changement climatique vont être perçues par un gouvernement central qui va mettre en ordre des lois pour changer les choses. Je pense que ça se gère au niveau local et territorial parce qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes. Je pense
qu'il y aura peut-être des investissements ou des aides à l'investissement justement sur les fameux panneaux solaires. Ça peut être quand même fait par l'État.
Il y a quand même eu une prise de conscience au niveau des élus sur sur le territoire avec la sécheresse qui a eu lieu l'année dernière.
Oui, c'est ce que j'allais dire, et les incendies des montagnes.
Et ça, je pense que voilà, et ça va continuer puisqu'on voit que cet hiver les nappes se sont pas re-remplies. Il y a une très belle carte de France qui montre l'état du remplissage des nappes, et la presqu'île de Crozon, même s'il pleut beaucoup en ce moment, est plutôt dans le rose. Elle est pas dans le rouge, mais elle est plutôt dans le rose. Donc les nappes ne sont pas pleines, et il faut espérer qu'on va pas reprendre une même sécheresse. Mais du coup, je pense qu'il y a une vraie préparation des élus là-dessus, en cas de sécheresse. Mais c'est aussi, il faut aller au-delà de ça. Nous, le Forum Impact Bretagne 2050, c'était très intéressant. Les scénarios se projetaient à 30 ans. La jeune équipe de le cabinet de Nantes qui a fait ça a vraiment fait les choses très bien. Aujourd'hui, on n'a pas de retour. Et moi, ce que j'aimerais, effectivement, c'est avec ces rapports du GIEC, que peut-être les élus qui décident des politiques locales se disent, chaque fois qu'ils se rassemblent, quelle décision on a prise, quelle partie du budget on a appliqué pour s'adapter aux effets du changement climatique. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une bonne partie du budget qui...
On ne sait pas, non.
Je ne crois pas.
Vous avez des idées là-dessus Inspiré de l'Allemagne, peut-être.
Non, c'est plutôt pour mon passé professionnel comme ingénieur. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans les centrales électriques de toutes sortes. Hein. Et là, je me connais assez bien dans l'électricité ou l'énergie en général. Et je vois qu'il y a beaucoup de potentiel sur la presqu'île qu'on peut... un peu pousser plus loin pour se préparer pour les années qui viennent. Parce qu'il faut savoir que la Bretagne, en total, produit que 18% de son électricité.
Oui, mais oui, ça c'est vraiment un gros problème.
Et la presqu'île, c'est encore pire. La presqu'île, c'est 1,5%.
Ah ouais, elle en produit quand même.
C'est rien du tout. Oui. Mais si on regarde, d'ailleurs ça se trouve aussi sur notre site web, il y a à peine 60 ans, sur la presqu'île, il y avait une cinquantaine des moulins. Moulin à mer et moulin à vent. Alors, il y a les anciens, ils ont déjà utilisé les énergies renouvelables. Mais avec l'arrivée du pétrole qui était bon marché, alors tout était rasé parce que c'est plus rentable.
C'est ça.
Mais ça va revenir plus rentable, mais il faut pas attendre le dernier jour, ça sera trop tard. Il faut se préparer. Maintenant, on a encore les moyens. On peut le faire, on peut le préparer.
Mais en tant qu'ingénieur, vous savez très bien que faire des panneaux solaires, ça demande de l'énergie déjà en soi, et puis des métaux rares, enfin des ressources qui sont limitées, etc.
Des métaux rares, c'est faux.
Ah oui ?
Dans un panneau solaire, il n'y a aucun métal rare.
Bon, c'est une bonne chose.
Oui, parce que pour le moment, les conduites, c'est soit du cuivre, même aujourd'hui, celle avec du aluminium. Aluminium, c'est en abondance sur la croûte terrestre, et le silicium, c'est du verre, c'est du quartz qui se trouve à la plage en des tonnes presque. Bon, le sable, c'est aussi une pénurie, mais
oui, ça faut pas trop en abuser.
Dans nos roches bretons, il y a assez de quartz pour faire.
Et alors, le problème, c'est quoi? C'est de le transformer en électricité après, non?
Non, c'est le vrai problème, c'est là que vous avez raison. Pour produire un panneau solaire, il faut une certaine énergie, plusieurs kilowattheures. Et on dit qu'en Europe, là où on est, ici, il faut que le panneau solaire fonctionne à peu près 9 à 10 mois pour juste produire l'énergie qu'on a eu besoin pour le produire.
C'est faisable chez nous, qui fonctionne 9 à 10 mois?
Oui. Non, dans les premiers 9 mois, le panneau solaire produit déjà
l'énergie
toute l'énergie.
Ah oui, donc c'est bon. Il a été rentabilisé en termes d'énergie.
Il est déjà rentabilisé dans 9 mois. Bon. Et la durée de vie, parce que moi, à la maison, j'ai des panneaux solaires recyclés de mon frère. Mon frère, il a eu ça en Allemagne 20 ans sur son toit. Maintenant, ils sont chez moi, ils marchent très bien. Ils ont perdu 2-3% de puissance, mais pas beaucoup. Bon. Ça veut dire, alors, les coûts d'énergie de la production, ils récupèrent facilement. Bon, maintenant, si on fait des comparaisons, si on les laisse tous produire en Chine, et on dit, bon, ils sont tous produits avec de l'électricité du charbon, et on compare qu'ils remplacent l'électricité nucléaire bas carbone ici, bon, là, on peut faire tas des choses, mais je pense que la réalité est avec n'importe quel mix d'électricité, ça bouffe un peu d'énergie, et de là vient de l'impact carbone, mais on peut le récupérer assez rapide. La meilleure chose, ça sera qu'on produit les panneaux solaires en France avec l'énergie renouvelable qui existe déjà. Mmh. Ou à la rigueur, énergie bas carbone nucléaire qui existe aussi déjà.
Céline, votre marotte, c'est l'habitat. Alors, qu'est-ce que vous avez peut-être des choses à nous dire là-dessus?
L'habitat, aujourd'hui, on est sur un territoire où il y a beaucoup de maisons anciennes, en pierre ou en parpaing. Tout le monde ne va pas construire neuf. Si on construit neuf, moi, je recommande de construire en paille, hein, surtout qu'on a beaucoup de producteurs de paille sur le territoire. Mais aussi, on peut rénover en paille. Le réseau français de la construction en paille vient juste de démarrer, toujours avec l'ADEME, la préparation de la réglementation sur les ITE, les isolations techniques par l'extérieur, en paille. Aujourd'hui, il y a
On peut faire un bardage en paille, par exemple.
Alors, c'est pas un bardage, mais on peut isoler et après par-dessus mettre un bardage ou mettre un enduit terre puis chaud sable.
On a le droit maintenant. On va avoir le droit.
On peut tout faire. Alors, une des lois aussi de la loi de 2016, ça a été le droit à l'expérimentation. C'est une des rares choses de ce gouvernement que j'ai apprécié, ça a été ce droit à l'expérimentation. Et en construction paille, il y a énormément d'expérimentation. Et donc ça, sur les ITE, a priori, il leur faudrait 3 ans pour faire la réglementation. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, des bâtiments en pierre sont déjà isolés en paille. On a aussi le chaux-chanvre, ça c'est plutôt en intérieur. Oui, oui. Sachant que le chaux-chanvre n'est pas vraiment isolant, mais au moins il pousse l'humidité à l'extérieur, parce que le vrai sujet de nos bâtiments, c'est cette humidité. Aujourd'hui, on sait construire avec des matériaux où, en hiver, vous n'avez pas besoin de chauffage ou très peu.
Pour la Bretagne, en tout cas.
Pour la Bretagne, mais même en montagne. Vous avez des murs alors qu'ils font 50 cm d'épaisseur en isolant paille. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire mieux que le combo terre-paille. Mmh. La terre pour pousser l'humidité vers l'extérieur et la paille pour isoler.
Et il n'y a pas d'autres limites. Enfin, ça, c'est les avantages, mais il n'y a pas des limites qui font que... Enfin, je ne sais pas, l'insuffisance de ressources ou d'autres trucs.
Le RFCP avait calculé ça il y a 4-5 ans. Il faudrait seulement 10 à 15% de toute la paille produite en France pour isoler tous les bâtiments qui en ont besoin. 10 à 15% seulement.
Oui. Ça paraît tout à fait raisonnable.
Oui.
Hervé, quelles sont vos marottes à vous ? Sur quoi vous avez envie de vous battre, citoyen du climat ?
Alors pour rester sur l'habitat, je suis toujours à ma sobriété.
Oui.
C'est définir juste le besoin qu'on a. C'est pas la peine de construire 50 pièces alors qu'on vit très très bien dans 20 mètres carrés. Et donc, c'est essayer d'avoir une réflexion qui pousse à quel est mon besoin réel d'habitat, dans quoi je me trouve bien. Simplement. Mmh. Et puis, une de mes marottes, et ça va rejoindre d'ailleurs les marottes qu'on peut avoir auprès des citoyens du climat, c'est comment se nourrir de manière locale et sainement.
C'est vraiment possible, en plus, sur notre territoire. Il se trouve que c'est vraiment possible.
Tout est possible. Aujourd'hui, les filières locales existent. On arrive à acheter local. Fruits, légumes, enfin fruits, bien sûr, c'est des fruits.
Ah ben, on n'aura pas des cerises tout le temps, hein, ça c'est
non,
sûr.
Non, c'est exactement ça. Si on a envie de boire du café, c'est clair qu'il faut apporter le café. Mais on peut arriver, de toute façon, à acheter local et à consommer local. Et les filières sont à développer. Alors, pour aller un peu plus loin on peut aller chercher des réserves foncières pour créer des légumeries, pour créer ce genre de choses qui favoriseraient encore plus le local.
Il y a encore la place, c'est ça que vous voulez dire, quoi.
Il y a encore la place, bien
oui,
entendu.
Oui, parce qu'on dit tout le temps, oui, mais le foncier, c'est difficile pour les agriculteurs, ils ont du mal à trouver du terrain et tout ça. Enfin, on entend dire, en tout cas. En fait, c'est parce qu'il est pris par autre chose.
Voilà,
c'est ça.
C'est une transformation des pratiques. Mmh. Au lieu de faire de l'élevage, on peut faire du maraîchage ou un mix. Et ça, c'est vertueux.
Mmh. Les fermes en polyculture élevage qu'on voit, les installations en agriculture aujourd'hui sont des gens assez jeunes, souvent pas issus de milieux ruraux. Et systématiquement, ils s'installent en GAEC sur plusieurs activités, en polyculture élevage.
Et ils transforment,
d'ailleurs. Et surtout, le fait de faire l'élevage d'animaux permet ensuite d'amender la terre qui sera favorable au maraîchage. Sur le territoire, on n'est qu'à 5% de maraîchage. Je parle de ça parce que j'ai assisté aux réunions publiques sur le plan d'alimentation territoriale qui est en cours d'établissement. Un diagnostic avait été fait en 2019 qui vient d'être mis à jour. Il y a eu le dernier comité de pilotage élargie il y a 2 jours. Et durant les 4 réunions publiques qui ont lieu auparavant avec des thèmes précis comme la restauration collective, l'agriculture, la communication et la justice sociale surtout, il y a 60 actions qui ont été demandées et suggérées. Une prochaine réunion va avoir lieu pour voir quelles sont ces 60 actions. et voir celles qui peuvent être implémentées. Mais il faut une vraie volonté politique locale de vouloir recréer des espaces pour du maraîchage et notamment créer ces réserves foncières. Et ça peut faire partie du budget de la communauté de communes.
Ça peut être même municipal, en régie municipale ou en régie intercommunale.
Exactement.
Le problème, c'est quand même la question du revenu. Il faut que ces gens puissent vivre. C'est dur, hein, le maraîchage. Donc,
Il existe 80 légumeries en France. Vous avez une carte de France qui recense les légumeries qui sont créées ces 10 dernières années. Il en existe 80 en France. Il n'y en a aucune en Bretagne.
C'est quoi les légumeries ?
Les légumeries, en fait, c'est une régie maraîchère publique. Aujourd'hui, la communauté de communes vient de reprendre en régie publique l'assainissement et la gestion de l'eau, qui auparavant était aux mains de sociétés privées. Et on peut faire la même chose avec du maraîchage. Ça crée des emplois pour de la réinsertion. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce que dans les années à venir, et avec les impacts de nos activités quotidiennes, à un moment donné, on va arriver à, pour nous occuper au quotidien, nous occuper auprès d'activités essentielles. Et les activités essentielles, c'est quoi ? C'est nous nourrir, donc l'énergie humaine, s'abriter du vent, du froid, du soleil, et donc construire des habitats qui soient vertueux, et localement créer de la solidarité. On ne va pas pouvoir tous se mettre au maraîchage. Par contre, on peut, dans son petit jardin, chacun, pouvoir faire des choses. Mais on ne peut pas être autonome à 100%, que ce soit en énergie ou en alimentation, et il va falloir à un moment donné, effectivement, se rassembler et partager ça. Mais sans volonté politique locale, et je suis désolée, je le répète, parce que dans le cadre de ce PAT, c'est quelque chose qu'on peut voir.
Projet alimentaire de territoire.
Voilà, d'avoir un projet alimentaire territorial ambitieux.
Eh bien, quelque chose me dit que nous retrouverons une nouvelle fois les citoyens et citoyennes du climat dans cette émission. Je vous dis à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Dans un instant, la deuxième partie de l'AIM avec l'ami des écureuils.